Moi, je vais tenter de résumer quelques aspects du livre pour apporter un peu de contenu à la discussion après. Cette discussion, il faut savoir qu'il y a ici, sont venus 10 camarades du Mexique et 10 camarades de France. Donc, quand la discussion commencera, il ne faut pas s'étonner s'il y a des gens dans le public qui répondent, parce que le but c'est de se rencontrer, donc c'est normal. Donc l'objet de ce livre, c'est de tirer les leçons des insurrections des dernières années. Et notamment de comprendre pourquoi elles n'ont pas abouti à des révolutions. Il s'agit de comprendre sur quels obstacles invisibles, liés à la tradition révolutionnaire, elles sont venues s'écraser. Et si on ne se contente pas de vérité idéologique, il faut bien admettre que ces échecs nous forcent à repenser notre idée de révolution. Donc le livre est composé de 7 chapitres centraux, qui chacun porte sur un nœud conceptuel, un piège, une confusion qui, d'après nous, entrave les processus révolutionnaires actuels. Les 7 chapitres portent sur la crise, un autre sur la démocratie et le gouvernement, un troisième sur la localisation actuelle du pouvoir, un autre sur la cybernétique, ensuite sur la guerre, puis sur la société, et enfin sur la commune. À nos amis exposent les difficultés rencontrées par les processus révolutionnaires des dernières années et essayent d'esquisser des passages au-delà. Le problème pour nous ce soir, c'est que les passages en question, ils ressemblent très souvent aux chemins sur lesquels les apatistes avancent depuis parfois 20 ans. Et donc, on va pas avoir le ridicule d'essayer de vous convaincre de faire ce que les apatistes font déjà depuis longtemps. Et on va pas non plus faire l'apologie de l'insurrection à des gens qui en ont organisé une, effectivement, les armes à la main. Par contre, ce qu'on peut faire ce soir, c'est tenter de partager, à l'aide du langage et des perceptions qui sont élaborées dans À nos amis, ce qu'on peut essayer, c'est de partager les difficultés qu'on rencontre. Et en tout cas, les difficultés qui nous semblent avoir un écho avec la situation mexicaine. Donc le premier point, c'est la question de la lutte contre les infrastructures. Comme les insurrections des années passées l'ont montré, les lieux du pouvoir institutionnel sont un espèce d'aimant pour les mouvements révolutionnaires. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose qui se lève, spontanément, les gens vont faire des campements devant le Parlement ou essayer de le brûler. Ils vont brûler, comme en Bosnie par exemple, le bâtiment du gouvernement. Ils vont envahir l'Assemblée locale. Et le plus souvent, lorsqu'ils y arrivent, ils se rendent compte que, comme par exemple en Ukraine, que les lieux du pouvoir sont vides, et qu'il n'y a pas du tout de pouvoir à l'intérieur. C'est qu'en fait, la forme contemporaine du pouvoir, c'est pas l'institution. Le pouvoir réside plus dans les institutions. Le gouvernement n'est plus dans le gouvernement. Le lieu effectif du pouvoir, en tendance, c'est l'organisation même du monde, son organisation logistique, matérielle, technologique. Et c'est très difficile de se rebeller contre un pouvoir qui ne donne pas des ordres, mais qui est l'ordre même des choses. Et il faut noter que dans les dernières années, en Europe en tout cas, les luttes sociales sont largement affaiblies, ce qu'on appelle les luttes sociales sont largement affaiblies. Et par exemple, si on prend l'Allemagne, la France ou l'Italie, les luttes qui concentrent et qui polarisent l'initiative révolutionnaire, ce sont des luttes contre l'infrastructure. Et ça fait écho à l'initiative des apatistes de lier 29 luttes contre des projets d'infrastructure au Mexique aussi. Dans ces luttes-là, il y a toujours deux aspects. il y a un aspect qui consiste à s'arracher à la dépendance matérielle dans laquelle on est tenu, à gagner en autonomie, et de l'autre, un aspect qui consiste à empêcher la construction des infrastructures. Le problème face auquel on est, c'est que ces luttes ont malgré tout un aspect défensif. En général, elles ne parviennent pas à déstabiliser l'ennemi et elles laissent intacte sa domination par ailleurs. Le plus souvent, l'idée que le caractère exemplaire de ce qui se construit dans ces luttes pourrait se diffuser dans toute la société, c'est quelque chose qui ne se passe pas. Donc ça, c'est une première difficulté qu'on a. La deuxième, c'est la question qu'on pourrait appeler la question du local. Pour les plus vieux d'entre nous, donc nous qui sommes là ce soir, notre politisation, elle s'est produite dans le mouvement anti-globalisation. À l'époque, on parlait beaucoup des apatistes. En gros, à cette époque, on vivait dans des squats et tous les 3, 4, 5, 6 mois, on allait faire une émeute dans un pays d'Europe. Et à un moment, il est arrivé ce point où, en fait, déjà, on voyait plus trop le sens. Il n'y avait aucun rapport entre ce qui se faisait dans ces contre-sommets et la vie qu'on menait sur place, chez nous. Et puis, il y a aussi un point qui est arrivé où, en fait, dans les manifestations anti-globalisation, il y avait plus de journalistes pour filmer les manifestants que de manifestants eux-mêmes. Et donc, on a éprouvé la nécessité de s'arracher à l'abstraction du global. Et donc, il y a beaucoup de gens issus de ce mouvement qui ont pris des lieux, monté des communes, qui se sont donné une réalité, plus de réalité, en tout cas, une réalité de quartier, de village. Et nous-mêmes, en France, en Italie ou en Espagne, on est très organisé sur une base locale. Quoi. Et ce retour du thème de la commune, ça n'a pas été un retour qui concernait juste quelques personnes. Le thème de la commune, c'est un fait historique, revient partout. Il revient à Taksim, où la révolte s'est appelée la commune de Taksim. Il revient lors d'Occupy aux États-Unis ou à Auckland, Occupy Auckland s'appelle la commune de Auckland. Il revient au Kurdistan où le premier geste face à une attaque, après une attaque de l'armée, s'est déclaré 140 communes. Et le seul problème qu'il y a, c'est que maintenant qu'il y a des réalités locales fortes, la question c'est qu'on est face à un ennemi, le capital, dont la puissance est justement sa mobilité globale. Donc la question à laquelle on est confronté, et je pense que cette question, c'est une question qu'il y a aussi dans la Sexta, comment constituer, puisqu'on est face à un ennemi qui lui-même est organisé mondialement, comment est-ce qu'on constitue une force mondiale à partir de forces qui sont situées, qui sont locales ? Et là, je parle d'une force qui ne soit pas une organisation, qui soit une pluralité de monde, mais qui sont capables tout de même d'élaborer des stratégies ensemble. Et évidemment, restera toujours la question de comment empêcher, comment contredire le penchant spontané des communes à se refermer sur elles-mêmes. La troisième question, c'est celle de la guerre. Une mauvaise habitude de penser nous a fait assimiler la guerre aux militaires. Or, il se trouve que depuis 50 ans, les militaires n'ont pas cessé de développer un concept non militaire, un concept civil de la guerre, dont la forme la plus visible, par exemple, dans les communautés apatistes, c'est les maisons, la Casa Digna, c'est ça que ça s'appelle, le programme de les maisons blanches avec un bandeau rouge, qui signifie bien « nous sommes là ». Et il se trouve que au moment où les militaires développaient une idée non militaire de la guerre, dans les mouvements s'est développé un pacifisme qui était obsédé par le refus de la guerre, toujours compris comme guerre militaire. Il n'y a jamais eu autant de pacifistes que dans une époque où la guerre est partout. Et il se trouve que les théories contre-insurrectionnelles, puisque c'est de cette forme-là de la guerre qu'il s'agit, sont devenues les doctrines mêmes du gouvernement. La propagande médiatique, ce qu'on appelle le management des perceptions, l'exercice localisé de la terreur, le chaos provoqué pour paralyser le jugement et l'action, tout ça sont devenus des pratiques communes, c'est-à-dire que, par exemple, dans le marketing contemporain, à la guerre d'Algérie, et donc la question, c'est comment ne pas nous placer dans un rapport symétrique avec... dans la guerre qui nous est faite, comment ne pas nous placer dans un rapport symétrique avec l'ennemi ? C'est-à-dire là où les contre-insurrectionnels veulent gagner les cœurs et les esprits, ce qui d'ailleurs parfois a des conséquences dramatiques, comme dans le cas de Petraeus qui a clairement voulu gagner un cœur de trop. Donc là où eux veulent gagner les cœurs et les esprits de la population, comment nous ne pas nous placer dans la même position qui est souvent celle des militants, souvent celle des activistes ? Pour le coup, c'est-à-dire comment être la population, et là-dessus, l'exemple zapatiste est admirable. C'est-à-dire, comment faire pour que la perception stratégique du cours des choses, la lecture des opérations adverses et la pensée des contre-opérations soient quelque chose de commun et non le fait d'une avant-garde. Et donc ça revient toujours à la question de comment articuler une verticalité stratégique et une horizontalité de la vie. Et clairement, le ZLN et le mouvement zapatiste sont une forme de cette articulation. La quatrième question qui se pose à nous, c'est la question de la destitution. C'est la dernière partie. Depuis au moins la Révolution française, la question de la Révolution, elle se pose en termes de dialectique entre un pouvoir constitué et un pouvoir constituant. La Révolution, c'est censé être le moment où le pouvoir constituant déborde le pouvoir constitué. En réalité, il n'y a évidemment pas de pouvoir constituant, quoi que Tony Negri puisse prétendre. Le pouvoir constituant, c'est une fiction qui est rétro-projetée par le nouveau pouvoir constitué à partir du moment où il a stabilisé la situation. Typiquement, ce qui s'est passé en Égypte ces dernières années est exemplaire pour ça. Et c'est-à-dire que généralement, on en arrive assez rapidement à massacrer le peuple au nom du peuple. Il se trouve que les insurrections contemporaines, on ne peut pas nier qu'elles soient essentiellement destituantes. Le dégage de Tunisie, adressé à Ben Ali, est absolument fait un écho absolu à « Oke se bayan todos, y que no quede ni uno » d'Argentine. Les mouvements insurrectionnels, leur seule exigence, leur contenu et leur puissance, elle vient du fait d'exiger que le pouvoir corrompu, obscène, criminel qu'ils ont en face d'eux tombe. C'est aussi, pour ce que j'en comprends, l'énergie qui émane des familles d'Ayotzinapa. Les insurrections contemporaines se caractérisent par le fait qu'elles n'ont pas de programme, pas de leader, et qu'il n'y a pas de volonté nette de prendre le pouvoir, comme par exemple au temps des bolcheviks. Des exemples locaux de destitution au Mexique, il y en a manifestement beaucoup plus qu'ailleurs. À Tcheran, par exemple, à ce qui se passe dans l'isthme de Tehuantepec, à San Dionisio del Mar, à Álvaro Obregón, et évidemment aussi au territoire zapatiste. Donc la logique destituante, elle ne consiste pas dans le fait de se jeter sur l'appareil du pouvoir pour le prendre, mais largement dans le fait de se constituer séparément, d'élaborer une forme de vie, de la transmettre. Très clairement, ce qui s'est substitué à la logique de la prise du pouvoir, c'est la logique de l'accroissement de puissance. Et la question qui se pose à nous, c'est comment faire en sorte que la destitution ne soit pas un moment qui soit balayé par le retour du constituant. Le cas de l'Argentine après 2001 est un cas manifeste de ça. Ce qui se passe en Espagne à la suite du 15e, où des gens se font élire en tant qu'indignés avec Podemos, tout ça. Ce qui se passe en Grèce avec Syriza après le mouvement des places. Donc comment faire pour que la destitution soit un processus infini et que les ordres concrets ne se fichent jamais en institution? Voilà, on pourrait répondre à toutes ces questions par on verra bien, cheminons. Évidemment, ça ne répond pas à la question de quel chemin on trace là maintenant. Quoi. Et donc, pour conclure cette intervention, puisque nous, ce qu'on désirait, c'est qu'il y ait un débat international sur la question de la révolution. Comme nous, on est venus ici ce soir et qu'on vous remercie de votre invitation. Donc, nous, on va essayer d'organiser un forum révolutionnaire mondial en Europe, certainement au printemps. Et donc, on vous invite. Et dès qu'on aura l'invitation, on vous l'enverra.